Et merci d'écouter France Inter, il est très exactement 19h. Hélène Roussel pour le journal, bonsoir Hélène.
Bonsoir. Le virus reprend des couleurs, le Delta aussi contagieux qu'inquiétant, la vaccination plafonne et le Premier ministre consulte projet de loi sur la table du Conseil des ministres la semaine prochaine. La piqûre obligatoire pour les soignants, on y va tout droit, c'est aussi le sujet ce soir du téléphone sonne, Fabienne.
Et oui, pour les soignants principalement et au-delà même peut-être, comment peut-on encore convaincre? Qu'est-ce qui fait que certains, au-delà des antivax et de leur théorie de rien, qu'est-ce qui fait que certains ont encore peur? Qu'est-ce qui vous fait peur alors que le discours sur le variant indien, on va y venir, commence à inquiéter et promet une hausse avant la fin de l'été. Vous connaissez le chemin, 01 45 24 7000.
Bah les masques, les Anglais en mode totalement déconfiné pour le 21 juillet, conférence de presse de Boris Johnson cet après-midi. Un ministre de la Justice convoqué en vue d'une mise en examen, Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice de la République le 16 juillet, soupçonné de prise illégale d'intérêt. L'intoxication au plomb sur le site de Notre-Dame, plus de 2 ans après l'incendie, associations et riverains vont porter plainte contre X demain matin, France Inter vous le révèle ce soir. Et puis un village englouti par la boue au Japon, des dizaines de disparus. Thiago Rodriguez, un Portugais, prochain patron du Festival d'Avignon qui a levé son rideau aujourd'hui. Enfin le peloton rincé après la traversée dantesque des Alpes, jour de repos en altitude, dodo, massage et câlinothérapie.
France Inter.
Les doses sont là, mais pas les candidats. Nos centres de vaccination sont en partie désertés. Contraste saisissant. Ceux de Sydney, en Australie, à l'autre bout du monde, sont littéralement pris d'assaut. Pays plutôt épargné jusqu'ici, l'Australie est rattrapée par le variant Delta et avec seulement 7% de la population vaccinée. C'est la ruée sur les rares doses de Pfizer. Quand la course au vaccin se transforme en lutte acharnée, c'est un reportage dans un Sydney confiné depuis 8 jours, signé Grégory Pless.
Comme un coup de bambou, après des mois durant lesquels presque toutes les restrictions avaient été levées, le reconfinement de Sydney pousse les habitants de la capitale économique de l'Australie en masse vers les centres de vaccination. Le problème, c'est que le gouvernement a commandé des vaccins presque exclusivement auprès d'AstraZeneca, puis décrété peu de temps après qu'ils n'étaient recommandés que pour les personnes âgées de plus de 60 ans. Résultat, tout le monde ou presque se tourne vers le seul autre vaccin disponible à ce jour, celui fabriqué par Pfizer. Mais les stocks, très limités, sont pris d'assaut, à tel point que le ministre de la Santé de Nouvelle-Galles du Sud, Brad Hazard, a comparé la situation actuelle au scène d'un film post-apocalyptique.
On a l'impression d'être dans les Hunger Games, avec tous ces gens qui se pressent pour se faire vacciner. Et tant qu'on n'aura pas assez de vaccins et de médecins pour les administrer, ce sera les Hunger Games, ici, en Nouvelle-Galles du Sud.
Et la crise risque de durer. Le Premier ministre Scott Morrison a certes annoncé récemment des commandes supplémentaires auprès de Pfizer, mais aussi la signature d'un contrat d'approvisionnement avec Moderna. Seulement, ces nouvelles doses ne devraient pas arriver en Australie avant au moins le mois de septembre. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
Dans un autre style, mais même genre de problématique, le Venezuela est l'ultimatum du président Maduro au programme COVAX. On nous envoie les vaccins ou on nous rend l'argent. Son pays, dit-il, a payé mais n'a toujours pas vu la couleur des doses promises. Donc en France, tout l'inverse. On a bien les doses, manque la motivation. Le nombre de primo-injections plafonne et des soignants vaccinés à 57% dans les EHPAD, 64% dans les hôpitaux. À ce rythme, une quatrième vague est possible d'ici la fin juillet, prévient le ministre de la Santé. Le gouvernement pourrait très vite rendre le vaccin obligatoire, au moins pour le personnel soignant. Consultation des élus locaux jeudi, probable projet de loi sur la table du Conseil des ministres mardi prochain et vote du Parlement avant le 21 juillet. Pour Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, c'est toute la population qui devrait être concernée.
Je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. Aujourd'hui, si on cristallise les soignants, c'est moins de 5% de la population, on se trompe de cible. Aujourd'hui, la problématique, c'est que malheureusement, cette maladie, elle sévit à nouveau avec des clusters familiaux. Je peux vous l'assurer, parce que les gens que j'ai à l'hôpital, d'abord, sont relativement jeunes, ils ont moins de 50 ans, et qu'en général, avec le variant indien, ça ne pardonne pas. Tout le monde est contaminé. Pourquoi ? Parce que le R0, ce risque de contaminer un individu, il est entre 6 et 7, c'est comme la rougeole. Ce sont des maladies extrêmement contagieuses. Maintenant, le Covid, c'est devenu une maladie de tout le monde. Ça veut dire qu'il faut aller très vite, pas forcément par des mesures coercitives. Moi, je suis plus pour des mesures incitatives. Mais surtout, il faut changer de logiciel, changer de doctrine, parce qu'aujourd'hui, cette population qui n'est pas vaccinée, c'est quoi ? Ce sont les 45-55 ans et, par définition, les plus jeunes. Et clairement, il faut rapprocher les doses entre les deux vaccins, revenir au schéma originel des 3 semaines, Parce que c'est ça qu'on a perdu de vue, c'est que finalement les industriels nous avaient donné le bon code pour réussir, c'est-à-dire vacciner beaucoup, vite et rapprocher dans le temps.
L'infectiologue Benjamin Davidot avec Cécilia Arbona. De fait, vu que le virus ne baisse plus depuis quelques jours et que désormais le Delta représente 30% des nouvelles contaminations, le gouvernement pourrait bien décider également de resserrer le pass sanitaire nécessaire par exemple pour se faire un resto ou un ciné. Une façon détournée de rendre ce vaccin obligatoire. Faut-il le faire uniquement pour les soignants, pour tous? Faut-il le faire tout court? Ce sera la question ce soir du Téléphone Sonne. Apprendre à vivre avec le Covid, voilà le nouveau credo de Bojo dans le pays le plus endeuillé d'Europe après la Russie. Il est question à présent de lever les dernières restrictions initialement prévues pour le 21 juin, repoussées au 19 juillet à cause du variant Delta. 27 000 nouveaux cas rien que sur la journée d'hier. Richard Place, vous êtes en direct de Londres. Boris Johnson, confiant hein, malgré tout, lance en Angleterre le coup d'envoi d'un déconfinement à 100%.
Oui, Boris Johnson veut sortir des diktats du gouvernement, ce sont ses propres mots, pour demander aux citoyens de prendre leurs responsabilités. Dans les faits, cela signifie qu'il n'y aura dans deux semaines quasiment plus aucune obligation liée au virus ici. Les masques dans les espaces clos, les distances de sécurité, tout ça, c'est du passé, sauf si les personnes concernées le jugent utile. Les boîtes de nuit vont pouvoir ouvrir et il n'y aura plus aucune limite pour les rassemblements. Ce sera aussi la fin du télétravail. Les entreprises anglaises pourront demander à leurs salariés de revenir au bureau. L'idée avait été avancée, mais elle n'a finalement pas été retenue. Il n'y aura pas de passe sanitaire. N'importe qui pourra aller au restaurant, au pub ou au cinéma, vacciné ou pas. Seule contrainte qui va persister, vous le voyez, elle est légère. Il faudra garder un mètre de distance dans les aéroports. Les autorités considèrent que dans ces lieux spécifiques, il faut rester prudent. Boris Johnson dit bien que ce n'est pas la fin du Covid, mais il veut désormais traiter ce virus comme une grippe saisonnière. D'ailleurs, le responsable médical qui l'accompagnait ce soir s'attend à un hiver compliqué.
Richard Place, notre correspondant en direct de Londres pour France Inter, l'Angleterre qui va donc se déconfiner le 19 juillet prochain. Et puis le Covid, toujours dans le Royaume avec Kate Middleton, cas contact, l'épouse du prince William, en isolement pour 10 jours.
Éric Dupond-Moretti, convoqué le 16 juillet devant la Cour de justice de la République.
En vue de sa mise en examen, le ministre de la Justice a reçu cette convocation jeudi dernier après la perquisition de son bureau. Tout cela découle d'une enquête sur des soupçons de prise illégale d'intérêts ouverte en janvier dernier après la plainte de 3 syndicats de magistrats et de l'association Anticor. Selon eux, Éric Dupond-Moretti a profité de ses fonctions de ministre pour intervenir dans des dossiers où il était auparavant avocat et régler ses comptes. Réaction cet après-midi d'Éric Alt, vice-président de l'association Anticor.
En tant qu'avocat, il avait désigné des magistrats du parquet national financier comme des barbouzes. Il avait désigné un juge d'instruction de Monaco comme un cow-boy. Une fois devenu ministre, il décide de saisir l'inspection générale de la justice pour les poursuivre disciplinairement. La question se pose de savoir s'il n'a pas utilisé ses pouvoirs de ministre pour satisfaire un intérêt personnel et non pas pour servir l'intérêt de la nation. Et ensuite, c'est sûr que s'il y a une mise en examen, ça veut juste dire qu'il y a des indices graves et concordants et l'enquête se poursuivra jusqu'à éventuellement un renvoi devant la Cour de justice de la République.
Les avocats d'Éric Dupond-Moretti, quant à eux, déplorent une nouvelle violation du secret de l'instruction et une enquête à charge. Une tribune dans le Figaro ce soir, signée Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et Hervé Morin. Les ténors, 4 élus, favorables à une primaire à droite pour désigner le ou la candidate à la présidentielle. Offensive clairement dirigée contre Xavier Bertrand, qui depuis le début, lui, se dit contre ce principe. Vous vous souvenez peut-être de cette cliente de supermarché qui avait copieusement insulté une caissière, insulte raciste, dans un magasin Carrefour d'Annemasse. C'était le mois dernier, la vidéo avait largement circulé sur les réseaux. Eh bien, cette cliente vient d'être condamnée à 6 mois de détention à domicile avec bracelet électronique. Y a-t-il eu des négligences dans la protection des riverains et des ouvriers après l'incendie de Notre-Dame le 15 avril 2019, il y a un peu plus de 2 ans? Habitants, associations, syndicats, tous s'apprêtent à déposer demain matin une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Au cœur de cette plainte, la pollution au plomb.
Oui, en tout 400 tonnes de plomb ont fondu ou ont été dispersées pendant l'incendie. Or, l'association Henri Pézra, spécialisée dans la santé et l'environnement, ainsi que la CGT dénoncent le manque de mesures prises tout de suite après pour protéger les ouvriers du chantier. Les plaignants se fondent sur des rapports de l'inspection du travail obtenus de haute lutte, puisqu'il a fallu attendre juin dernier et la saisine du tribunal administratif pour y avoir accès. Rapport accablant, selon François Laforgue, leur avocat.
On doit mettre en œuvre des mesures de protection collectives, individuelles, donc donner des masques, mais des masques très performants pour les travailleurs. On doit également mettre à leur disposition des systèmes de douche, de sas de décontamination. Et malheureusement, eh bien, l'inspecteur du travail est intervenu à de très nombreuses reprises pour constater que rien n'était fait ou que très peu de choses étaient faites, en tout cas que la réglementation n'était pas respectée.
3 mois après l'incendie, le préfet de région de l'époque, Michel Cadot, décide de suspendre le chantier, le temps d'appliquer les mesures nécessaires. Mais pour François Lafort, les conséquences vont bien au-delà du seul parvis de Notre-Dame.
Malheureusement, eh bien, les travailleurs ont été exposés au plomb à des doses importantes durant tous ces mois, mais également eh bien, ils sont partis avec les poussières de plomb chez eux. Ils ont certainement contaminé leur entourage et puis également ça a permis la dispersion des poussières de plomb dans l'environnement de la cathédrale.
Or, on le rappelle, l'intoxication au plomb peut provoquer de nombreuses pathologies, dont le cancer du rein, même plusieurs années après l'exposition.
Ariane Grissel, l'intoxication au plomb sur le site de Notre-Dame et cette plainte contre X, c'est aussi à lire sur franceinter.fr. Du plomb encore, mais pas que, du mercure ou encore du cadmium contenu dans les roches phosphatées utilisées pour fabriquer des engrais. Trop de métaux lourds dans le sang des Français, bien plus que chez nos voisins. Pour les enfants, la consommation de céréales au petit déjeuner augmenterait les niveaux. Chez les adultes, une des explications, c'est la consommation plus grande de poissons avec des océans de plus en plus pollués. En tout cas, ces métaux lourds peuvent être à l'origine de cancers, de maladies chroniques, peuvent être toxiques aussi pour la reproduction. Étude peu rassurante, c'est le moins qu'on puisse dire, de santé publique. France. Le champagne étiqueté vin pétillant ou vin mousseux, on aura tout vu, imposé pourtant par la Russie à tous les champagnes importés. C'est la nouvelle loi de Vladimir Poutine. Laurent Kramer, bonsoir.
Bonsoir.
Un AOC attaqué, malmené. Est-ce que les producteurs français ont des armes pour se défendre?
Alors, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le champagne et son appellation AOC est également reconnu dans plus de 120 pays défendus par la France et la Commission européenne à travers de grands accords bilatéraux comme le CETA, le Mercosur, ou encore avec le Japon, des accords commerciaux qui protègent les AOC, les indications géographiques. Problème, aucun accord bilatéral de ce type n'a été signé avec la Russie. Les producteurs de champagne et surtout leurs juristes attendent donc maintenant de lire le texte précis, le texte russe, pour savoir à quelle sauce ils seront mangés et comment se défendre. Car comme à chaque fois, le diable se cache dans les détails. Alexandre Lévy est juriste à l'INAO, institut qui protège et accompagne les agriculteurs français sur le respect de ces AOC un peu partout sur la planète.
Il faut absolument savoir s'il s'agit d'une réglementation générale contre le champagne ou alors une mesure propre à l'étiquetage des boissons, des vins effervescents avec leur traduction en cyrillique, champagne ou autre. Donc si c'est une norme strictement sur l'étiquetage, nous aurons des recours à la fois juridiques et politiques pour sensibiliser nos amis russes, nos partenaires russes justement à l'atteinte que cela peut constituer.
Car sans accord bilatéral avec la Russie, c'est le droit international qui s'applique sur les AOC avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle rattachée cette fois à l'ONU. La Russie n'est certes pas un gros consommateur de champagne, mais il s'agit d'un symbole. D'ici demain, la diplomatie entrera dans la danse pour contester la mesure russe, puis des recours, si nécessaire, devant les instances auront lieu devant le droit international.
Laurent Kramer du service économique France Inter, merci. L'été meurtrier en Méditerranée cette année n'échappera pas à la règle. Plus de 60 migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont morts noyés en moins de 72 heures au large de la Tunisie. Et puis cette nuit, l'Ocean Viking, le navire de secours de l'ONG SOS Méditerranée, a sauvé 369 migrants dans les eaux libyennes. Ils sont à présent près de 600 à son bord. En bref, encore nouvelle attaque cette nuit dans un pensionnat du Nigeria. Des hommes armés ont enlevé 140 lycéens. 25 seulement pour l'instant ont réussi à s'échapper. Le monde d'Atami englouti. Ce village du Japon au sud-ouest de Tokyo, enseveli en partie par une coulée de boue il y a 2 jours. Un millier de sauveteurs sur place, mais dans les montagnes de débris et en pleine saison des pluies. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Une 60aine d'habitants portés disparus et des rescapés traumatisés. Karine Nishimura s'est rendue sur place. Son reportage.
La boue a envahi le rez-de-chaussée du restaurant de Madame Kimura, réfugiée dans un hôtel réquisitionné. Samedi matin, c'est le vacarme qui l'a alertée.
J'ai entendu comme un bruit d'avion, puis d'un coup, la boue a tout dévalé jusqu'à la mer. Je pensais rester chez moi, mais c'est dangereux, donc on a été évacués dans cet hôtel.
Choc aussi pour cette conductrice de taxi.
J'étais non loin de là en voiture, j'ai vu un bus se faire avaler. Je n'ai pas de mots pour décrire cela.
La coulée, qui a emporté au moins 130 habitations, s'étend sur une longueur d'un kilomètre de la montagne vers la mer, un fleuve de boue de 120 mètres de large par endroit. Les 200 personnes de la cellule de crise à la mairie ne cessent de recompter. 215 habitants figurent sur les registres de la zone ravagée, mais 64 manquent encore à l'appel. Sakae Saito, maire d'Atami.
Notre priorité est de sauver des vies et de nous occuper des quelques 500 personnes évacuées.
L'empereur Naruhito a fait passer par l'intermédiaire du gouverneur de Shizuoka des mots de condoléances et de sympathie. Atami, Karine Nishimura, France Inter.
Et à 19h15, le rideau s'est levé à Avignon. Premier spectacle cet après-midi. Émotion évidemment après l'édition 2020 annulée, après toute une année quasi blanche aussi pour la culture. Et d'abord, un nom à retenir ce soir. Thiago Rodriguez, 44 ans, portugais. C'est lui le prochain directeur du festival. Premier étranger à occuper ce poste. Il va succéder à Olivier Py à l'automne 2022. Nommé ce matin par la ministre Roselyne Bachelot, Thiago Rodriguez était à la tête du Théâtre National de Lisbonne, l'équivalent de notre comédie française depuis 7 ans. Avant de penser à l'avenir, il savoure le présent et dans un français parfait, s'il vous plaît.
Je suis surtout concentré, honoré et heureux avec cette nomination, mais surtout concentré sur une première de la série Z à la Cour d'honneur ce soir. Et aussi, j'ai hâte de découvrir les travaux de cette très 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 belle édition du Festival d'Avignon. Il y a plein d'artistes, Nathalie Béas, Christiane Jataï, Angélica Liddell, tellement d'autres. J'ai hâte de vivre le festival, de retrouver le public, de vivre le Festival d'Avignon tel qu'il est. Je suis plutôt dans le présent. Je dois vous dire, bien sûr, heureux avec l'avenir, mais avec toutes mes énergies dans le présent, dans le jour de première à la Cour d'honneur. C'est quand même quelque chose. Moi, je bouge par passion. Je suis amoureux du Festival d'Avignon. Quand j'ai compris que cet amour pourrait être mutuel, j'ai écrit la lettre d'amour et voilà, on est là, on va se marier bientôt.
Voilà, Thiago Rodriguez, le prochain directeur du Festival d'Avignon, évoque la cour d'honneur du Palais des Papes. Eh bien, allons-y. 22h ce soir, la Cerisaie avec Isabelle Huppert. 1956 spectateurs dans un gradin flambant neuf. Près de 4 millions d'euros inaugurés ce matin par la ministre de la Culture, Stéphane Capron, notre envoyé spécial, y était.
Je fais mes débuts sur la scène de la cour d'honneur du Palais des Papes, lieu mythique.
Avant Isabelle Huppert, ce soir, Roselyne Bachelot foule la scène de la cour d'honneur avec face à elle ce mur de sièges impressionnant. En 75 ans, le lieu a bien changé. Du temps de Jean Villard en 47, les spectateurs étaient assis sur des chaises. Cette sixième cour est mieux pensée pour le public. C'était le souhait d'Olivier Py, le directeur du festival.
On a surtout essayé de respecter la jauge qu'on avait, de ne pas perdre une place évidemment, de ne pas perdre un spectateur, et puis d'avoir plus de confort visuel, ouais. Plus de confort auditif parce qu'elle est merveilleusement bien insonorisée, donc le blang-blang qu'on entendait quelquefois dans la montée, la descente des marches est terminé. D'avoir une cour plus démocratique en quelque sorte où tout le monde a à peu près le même rapport visuel et auditif avec la cour. Et puis chaque siège est différent avec des couleurs différentes, avec ce très très beau dégradé qui va d'un bois foncé, le bois de la Seine, un bois très clair qui ressemble à la pierre évidemment, donc on passe du plateau à la pierre du palais.
L'ancienne structure a totalement été revalorisé. Le bois du plancher sert à construire de nouveaux aménagements pour les différents lieux du festival. Les fauteuils les moins vétustes sont en cours de transformation et seront réutilisés en deux nouveaux gradins de 512 et 320 places pour d'autres salles du festival.
Stéphane Capron avec le bruit des cigales, ouais. Comme si on y était. Première femme à remporter la Palme d'Or à Cannes, première cinéaste, présidente du jury aussi. Jane Campion, 67 ans, la leçon de piano, rajoute encore une ligne à son palmarès. Première réalisatrice à recevoir le prix Lumière, lauréate 2021. C'est un peu, si vous voulez, comme le Nobel du cinéma. Allez, tous dans la caravane pour terminer le Tour de France. Neuf premières étapes à fond, la dernière hier, dantesque pour l'arrivée à Tignes. C'était relâche aujourd'hui pour les coureurs, ça ne pouvait pas mieux tomber, Nicolas Perronnet.
Comme un pied de nez au peloton essoré, il a fait grand beau aujourd'hui à Tignes. Contraste saisissant avec les conditions épouvantables de la traversée des Alpes ces deux derniers jours. La pluie, le froid et ces images de coureurs à bout de force hier soir sur la ligne d'arrivée, grelottant, tenant à peine debout, rajoutaient les chutes des premiers jours et le rythme effréné. Rarement une journée de repos n'aura été aussi bénéfique, reconnaît le Breton Élie Gébert, qui n'a pas lésiné sur la grasse matinée.
C'est particulier en altitude, on dort un peu moins bien, donc bon, on a quand même bien écrasé parce qu'on était cramé. C'est mon quatrième tour et franchement, ouais, c'est vrai que c'est la semaine la plus corsée en tout cas que j'ai fait.
Les assistants des équipes ont eu beaucoup de travail toute la journée, soigner les corps, mais aussi les esprits, explique le masseur de la formation Arkéa Samsic, Sébastien Laroche.
Certains coureurs ont vécu leur pire journée depuis qu'ils sont professionnels. Des coureurs étaient en pleurs, touchés moralement, les visages meurtris. Sur la table de massage, on est un peu aussi complices, donc on essaye de remonter le moral. Cette journée était vraiment la bienvenue et il fallait qu'elle arrive vite.
Le répit aura été de courte durée. L'étape de demain entre Albertville et Valence est réservée aux sprinteurs. Mais à partir de mercredi, le menu sera de nouveau très copieux avec le Mont Ventoux avant les Pyrénées en fin de semaine.
Demain, retour en selle, Albertville, Valence, Pogacar toujours en jaune et le Mont Ventoux pour mercredi après-demain. Bah oui, le cauchemar.
Ah oui, absolument. Dans les deux sens, paraît-il. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Merci beaucoup, Hélène Roussel. À demain.
À demain.
Même endroit. Sûr. Voilà, on reste ensemble. Nous, pour le téléphone sonne, on parle d'obligation vaccinale ce soir. Et oui, c'est le débat du moment. À vos téléphones. En même temps, j'ai à peine besoin de vous y inciter. Vous êtes déjà très nombreux au standard et c'est tant mieux. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Élodie Calac, d'abord attention au vent.
Oui, entre ce soir et demain, on a vraiment un coup de vent qui balaye les régions de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec des rafales jusqu'à 90 km à l'heure dans les terres, 90 à 110 sur les côtes et puis aussi de fortes vagues. On a des pluies également sur le nord-ouest ce soir. Elles vont progresser vers le nord. Des averses orageuses vont également circuler du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers la Bourgogne, donc prudence.
Et puis on va retrouver nos bonnes vieilles pluies à l'est.
Exactement, des Pyrénées vers les régions de l'Est. Alors elles seront marquées, parfois orageuses, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Nord-Est. On aura un ciel d'averse qui s'installera sur la Bretagne et la Normandie le matin, jusqu'au Pays de la Loire, à la région parisienne et au nord de la Seine l'après-midi, avec du vent toujours fort sur les côtes de la Manche. Et puis entre les deux, quand même une petite accalmie du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers le centre, les Ardennes. Ce sera plus agréable avec des éclaircies plutôt belles. La région PACA et la Corse profiteront du soleil pour les températures 12 à 22 degrés le matin, et puis l'après-midi seulement 17 à 23 degrés, c'est un petit peu trop frais, mais 27 à 32 en Méditerranée.
Ben, Élodie, le nord de la Loire vient d'appeler, il dit que c'est pas la peine que vous reveniez. Merci beaucoup, allez à demain.